Chapitre 42. Il est 7h30 du matin, et Yuna marche dans le couloir de l'unité ouverte pour femmes de la prison de Kronoberg, accompagnée de l'officier de garde de l'administration pénitentiaire. Toute la journée, les portes des détenus restent déverrouillées. Seule une ligne rouge tracée au sol marque la limite avec les zones réservées au personnel. Il passe devant la salle commune, où une assistante sociale aux cheveux gris, membre d'une équipe de soutien pour toxicomanes, discute avec une femme mince qui se gratte nerveusement les avant-bras. Anne-Charlotte Olson a été inculpée pour trafic de drogue, recel, infraction à la loi sur les armes et sur les matières inflammables et explosives. La police scientifique est à pied d'œuvre au milieu du chaos de la cour de ferme. Le souffle de l'explosion continue de résonner dans les oreilles de Yuna. Peck était conscient lorsqu'il a été transporté en hélicoptère vers l'hôpital. Son état est grave, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Grégory a été suspendu de ses fonctions, et une enquête a été ouverte par le parquet spécial. 10 minutes après l'explosion, 3 voitures de police sont arrivées. Au bout de 20 minutes, la cour et l'entrée étaient remplies de véhicules d'urgence. Au loin, près de la grande route, les gyrophares bleus projetaient une lumière saccadée et désynchronisée sur les champs, les arbres nus et les flocons de plus en plus denses. Le feu a été maîtrisé et les enfants ont été pris en charge par 2 policières en attendant les services sociaux. Pendant qu'ils longent le couloir de la prison, le gardien explique à Yuna que l'unité s'efforce de créer un cadre digne pour les détenus. « Je ne dis pas que ce sont des anges, mais presque toutes ici ont été poussées vers la criminalité et la drogue par des hommes. » Elles ont été menacées, battues, violées. Quelqu'un a fait des brioches, et une odeur sucrée de pain, de cannelle et de sucre caramélisé flotte dans l'air. Quand Yuna a forcé la porte d'entrée et pénétré dans ce qui restait de la maison, il a trouvé Anne-Charlotte assoupie sur le canapé devant la télé, ses lunettes sur le nez. Elle était vêtue d'un pantalon de velours rose et d'un t-shirt à l'effigie de Taylor Swift. Une plaquette d'oxycodone était posée sur la table, à côté d'une cuillère et d'un pot de glace vide. « Finalement, il l'a fait », a-t-elle marmonné sans réussir à ouvrir les yeux. « Je commençais à croire que c'était que des paroles. » Le gardien s'arrête devant une porte fermée et frappe fort. « Lota, tu as de la visite », dit-il en entr'ouvrant la porte de quelques centimètres. « On peut entrer ?» Yuna l'aperçoit à travers l'entrebâillement, assise sur le lit étroit, vêtue de l'uniforme vert de la prison, les pieds posés à plat sur le sol dans des chaussons en tissu. C'est une femme corpulente, avec une forte poitrine et des cheveux courts et blonds. Elle a des rougeurs autour de la bouche. Ses lunettes sont sales et ses sourcils sont épilés en un trait fin. La petite pièce sent le café froid et la crème pour les mains. Je suis désolé, dit Yuna en entrant. Mais il est désormais confirmé qu'Ockeberg est mort dans l'explosion. Toutes mes condoléances. Dit-elle d'un ton neutre. Elle attrape une boîte sur la table, soulève le couvercle en plastique doré et glisse un sachet de snus sous sa lèvre supérieure. À partir de maintenant, j'enregistre notre conversation, annonce Yuna en sortant son téléphone. « Oh, que croyez aux théories du complot ?» dit-elle en fixant le mur. « C'est pratique, surtout pour les mecs. Tu vois, c'est pas de ta faute si tu vis comme tu vis. T'es un winner, t'es malin. Tu es très lucide sur le monde. Et puisque tout est truqué, ça sert à rien de se battre. »
« Anne-Charlotte, vous êtes suspectée de plusieurs crimes, » poursuit Yuna. « Mais... je suis ici pour vous parler de... Je sais pas d'où il a tiré que les services sociaux allaient nous prendre nos enfants pour les vendre, mais c'est devenu énorme dans sa tête, poursuit-elle. Là, il a dit stop. Il était prêt à mourir pour nos gosses. Ces gosses auxquels il n'avait pas pensé une seule seconde pendant toutes ces années. Je comprends que ce soit difficile pour vous, mais la vérité...
C'est que c'est difficile de se faire retirer ses enfants par les services sociaux, dit-elle en rôtant discrètement.
On a eu des centaines de signalements, des appels inquiets, des millions d'enquêtes. Je sais déjà que je suis pas la meilleure des mères. J'ai mal au dos, je prends plein de médocs, les gosses vont pas à l'école, les huissiers ont abandonné, il n'y a plus rien à saisir. Écoutez, l'interrompt Yuna, un témoin vous a vu au camping de Bredeng au milieu de la nuit du 26 novembre. Ses paupières tressaillent. Moi ? Oui. Ses lèvres fines s'étirent en un sourire tordu. Ok. Mais j'y suis jamais allé. Je savais même pas que ça existait. Pourquoi j'irais traîner dans un camping pourri quand j'ai déjà tout ce qu'il faut de pourri à la maison ?
On a retrouvé votre ADN.
Au camping ?
Oui. Un cheveu.
De moi ?
Demande-t-elle en se massant la nuque.
« Quand avez-vous coupé vos cheveux ?»«
Au printemps. »«
Aussi court que ça ?»«
Plus court encore, » dit-elle en passant sa main sur son crâne.
« Je les ai vendus plusieurs fois à un perruquier de Storgatan. »«
Vous avez vendu vos cheveux ?»«
T'y avais pas pensé à ça ?» dit-elle en souriant.
« Non, » avoue-t-il.
« Donc vous tuez mon mec ?» Et vous faites sauter toute ma maison pour une putain de perruque ?
Un procureur va prendre en charge l'enquête sur les infractions liées aux stupéfiants, aux armes.
C'était ok ?
L'interrompt-elle.
Ok. Et vous allez devoir construire des barreaux plus serrés si vous voulez le mettre en prison, dit-elle en se renversant en arrière, toujours souriante.
Yuna quitte la pièce et retourne dans le couloir. L'odeur sucrée des brioches a disparu. Il ne reste que celle des égouts. Une femme hurle d'une voix rauque derrière une porte en acier. Ils doivent maintenant trouver qui a acheté la perruque. Mais surtout, lui et Eric Maria Bark doivent retourner à la clinique du sommeil supplier Hugo Sand d'accepter une nouvelle séance d'hypnose. Il doit avoir vu plus que des cheveux blonds et un manteau brillant. Tandis que Yuna quitte la prison, une pensée lui traverse l'esprit. Il croit percevoir un motif lié aux victimes. Tous ces hommes avaient pris des risques sexuels.